Je soutiens pourtant qu'il doit être possible de le faire dans une perspective féministe, c'est-à-dire sans tomber dans le piège différentialiste et en évitant l'ornière essentialiste. Il faut pour cela commencer par faire la distinction entre ce qui relève de la féminité et ce qui relève du féminin au sens phénoménologique du terme. Dans le premier cas, féminité, nous sommes dans le registre des représentations. La féminité renvoie à un ensemble de dispositions considérées comme étant indissolublement attachées à la condition féminine, définies au prisme d'une triple injonction, disponibilité sexuelle, dévouement maternel et subordination sociale. Le mot de féminité condense en somme le projet patriarcal tel qu'il est imposé aux femmes depuis les origines, à savoir un pseudo-destin corporel placé sous le signe de l'infériorité et de l'asservissement. Il s'articule bien évidemment à la virilité comme un vis-à-vis nécessaire, virilité définie elle aussi au regard d'une triple injonction miroir faite aux hommes, puissance sexuelle versus disponibilité sexuelle, accomplissement individuel versus dévouement maternel et héroïsme social versus subordination sociale. Féminité et virilité s'enracinent dans le terreau immémorial de la hiérarchisation sexuée des rôles, portée et perpétuée par des mécanismes dont l'efficacité doit beaucoup à leur invisibilité. L'une et l'autre renvoient aux fondements patriarcaux de notre société, ceux que la révolution féministe a commencé d'ébranler et que nous nous efforçons aujourd'hui de détruire tout à fait. C'est au regard de cette dynamique de renversement qu'il faut, je crois, faire cette précision. Le féminin n'est pas la féminité. Il ne renvoie pas aux représentations stéréotypées ni au processus de socialisation genrée qui enferme les femmes dans des fonctions et des dispositions impératives. Mais il n'est pas assimilable non plus au corps tel que présentant des caractéristiques sexuées féminines, seins, vulve, clitoris, vagin, et éprouvant les mécanismes physiologiques qui y sont associés, ovulation, règles, gestation, allaitement, etc. Ni conditions culturelles, ni réalité naturelle, le féminin conjugue en quelque sorte ces deux aspects sans s'y réduire. Je propose de le définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement, c'est cet adverbe qui est important, un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps et qui se trouve de ce fait déterminé par lui. En ce sens, les femmes sont des individus phénoménologiques par excellence, c'est-à-dire des individus pour lesquels toute relation et toute signification sont toujours simultanément et indissolublement subjectives et corporelles. C'est précisément parce qu'elles n'ont longtemps été que des corps, tout entière assimilées à leur fonction sexuelle et maternelle, qu'elles ne peuvent faire comme si elles n'avaient pas de corps, et moins encore comme si elles n'avaient pas de corps sexuel. Alors il faut que je fasse ici deux précisions épistémologiques importantes. Non, je vais les faire plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Je continue. Donc, je m'étais arrêtée sur cette idée que les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps et encore moins comme si elles n'avaient pas de corps sexuel. Du moment où elles s'éveillent, confrontées à un reflet dont elles savent qu'elles doivent le modeler, le modifier pour présenter une image d'elles-mêmes obligatoirement façonnée, au moment où elles se couchent, après avoir passé la journée à penser aux effets qu'a produit sur les autres leur apparence, à penser à ce qu'elles mangent ou devraient ne pas manger, à penser aux modalités concrètes permettant de satisfaire leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents, à penser au plaisir qu'on leur demande de donner, à celui qu'elles aimeraient ressentir, à penser enfin à effacer les traces de cette rude journée à paraître, plaire et contenter, du matin au soir, tous les jours de l'année, tout au long de leur vie, les femmes sont leur corps. Rien de ce qui fait leur existence ne se conçoit indépendamment de cette nécessaire incarnation. Que ce soit ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, les projets qu'elles forment, les attentes qu'elles nourrissent, que ce soit les relations qu'elles entretiennent, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, que ce soit la place qu'elles occupent dans la société, dans l'espace public, dans le monde du travail. On conçoit que d'être ainsi son corps, toujours et partout, en toutes circonstances, puisse déterminer un certain nombre de comportements, de sentiments et d'idées même, tant il est vrai que les femmes n'accèdent au sens des choses qu'en tant que sujet incarné et sexué. C'est pourquoi j'ai entrepris d'explorer ces spécificités de l'existence corporelle féminine en tentant de dénouer ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques. Ce sont ces moments charnières lors desquels, à l'occasion d'un événement, processus, bouleversement corporel, les femmes éprouvent la sexuation de leur existence simultanément dans les registres intimes, sociaux et politiques. Lorsque leur corps se transforme, au gré de ces tournants incarnés qu'elles ne peuvent esquiver, cela produit non seulement en elles un bouleversement existentiel, mais cela modifie aussi profondément les représentations sociales les concernant, ce qui produit, enfin, des résonances politiques en termes de revendications et de droits. Ma démarche est celle d'une investigation systématique des âges de la vie, de la naissance au grand âge, en intégrant toutes les problématiques qui, d'une façon ou d'une autre, engagent le corps féminin. Il y a bien sûr ces étapes incontournables que sont les premières règles, la grossesse ou la ménopause, mais je considère aussi le corps de désir, le corps agissant, le corps sous les regards, quand il s'agit de se nourrir, de s'habiller, de se déplacer, de travailler, d'aimer. J'aborde tous ces sujets au double prisme phénoménologique de l'aliénation et de la libération. Et c'est ici que je dois faire cette double précision épistémologique. Si ces nœuds phénoménologiques que j'étudie renvoient tous à la matérialité incarnée du corps féminin, ils n'impliquent pas de posséder des organes féminins a priori. La sexuation peut donc être de naissance comme acquise, c'est-à-dire choisie plus tard dans l'existence. Certaines des problématiques que j'étudie ne concernent pas toutes les femmes, les règles par exemple, mais aussi la grossesse. Et si j'y réfléchis bien, en fait, aucune de ces caractéristiques ne concerne absolument toutes les femmes. Il s'agit à chaque fois d'expressions possibles, mais non nécessaires, de la corporité féminine au sens que j'ai donné plus haut à ce dernier adjectif. Je le dis donc de façon très claire, sous ma plume, le mot « femme » renvoie évidemment autant aux femmes cis qu'aux femmes trans. Non seulement ces dernières éprouvent rigoureusement les mêmes discriminations et violences liées à leur corps féminin, mais elles les subissent de façon d'autant plus intense et douloureuse qu'elles ont choisi de faire une transition. Elles doivent donc en outre supporter le rejet de celles et ceux qui ne leur reconnaissent pas leur identité de femme et le déni de ces autres féministes qui la leur refusent au motif qu'elles auraient été socialisées dans un corps masculin et ne posséderaient pas d'utérus. S'il y a bien des femmes qui endurent au quotidien tous les maux associés au fait d'être un corps féminin, ce sont les femmes trans. Voilà pourquoi, au passage, les exclure des combats féministes me paraît à la fois violent dans la forme et aberrant sur le fond. Ma seconde précision épistémologique a trait à la pluralité des expériences incarnées vécues par les femmes. Il va de soi qu'un même nœud phénoménologique ne revêt pas le même sens ni ne produit les mêmes conséquences selon qu'il concerne une femme blanche ou racisée, une femme valide ou handicapée, une femme socialement favorisée ou défavorisée, une femme jeune ou âgée. J'essaye donc de nuancer mes analyses au regard de cet indépassable entremêlement des facteurs de discrimination et d'oppression. Cela dit, parce que ma démarche n'est pas d'abord sociologique mais philosophique, et parce que je voudrais aussi proposer un cadre théorique englobant pour penser le corps des femmes dans une perspective féministe, il se peut parfois que certains de mes développements paraissent généraliser des situations qui demeurent toujours relatives. Alors je voudrais, ce sera mon troisième et dernier moment, pour illustrer cette démarche, dire un mot du lien consubstantiel qui existe entre la définition patriarcale du corps féminin comme corps à disposition et ce que cela implique relativement à la difficulté dans laquelle les femmes occidentales se trouvent de créer du lien sororal entre elles. Tout commence ici dans l'adolescence, lorsque les filles font l'expérience d'une entrée dans leur corps sexué qui est synonyme d'objectivation immédiate, c'est-à-dire de sexualisation immédiate. Les filles et les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de l'enquête que j'ai menée sur les seins des femmes m'ont toutes parlé de l'importance de ces moments passés à examiner leur corps et à discuter de leurs avantages et inconvénients respectifs. L'une déplore sa poitrine trop plate, l'autre se désole d'une cellulite naissante, une autre encore pleure en s'attrapant le gras du ventre. Toutes observent avec anxiété leurs hanches qui s'élargissent, leurs cuisses qui s'arrondissent et partagent leurs inquiétudes et leurs insatisfactions. Ce qui est remarquable, et glaçant, c'est que nul n'y échappe. Nulle fille ne peut se soustraire à cet impératif de comparaison, au point que c'est un passage quasi obligé de l'adolescence que d'entrer dans le jeu de la concurrence. Laquelle sera la plus belle, la plus mince, la plus conforme? Ce que les filles apprennent alors, c'est à se jauger et à s'évaluer les unes par rapport aux autres, développant un rapport à leur apparence qui ne pourra plus jamais se passer de la confrontation aux normes socialement prescrites. Voilà comment, ensemble, elles s'inoculent, progressivement mais définitivement, le poison de l'insatisfaction corporelle, quand ce n'est pas de la détestation de soi. Voilà comment aussi elles s'habituent à se considérer entre elles comme des rivales. Qui a donc décrété que l'entrée dans leur corps sexué devait immanquablement se faire pour les filles par le truchement de la compétition ?